Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 3 décembre 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Adrien et je suis accompagné de Laetitia.
Salut Adrien, ravi de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi, c'est le numéro 19. C'est aussi bien qu'un épisode de la fête à la maison et en plus, aujourd'hui nous recevons un invité. Aujourd'hui nous recevons Arthur Mirand, avocat et associé chez Parallèle Avocat, un cabinet assez atypique mais pertinent dans son secteur, l'économie numérique.
Pour rappel, le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Adrien, are you ready?
Ok Boomer, je suis ready. Bonjour Arthur.
Bonjour Adrien.
Alors, pour cette première partie, je te propose de rester à côté de nous. Si tu veux intervenir, tu n'hésites pas. Et en deuxième partie, on te fera les présentations et on abordera des sujets qu'on voulait discuter ensemble. Laetitia, je pense que pour cette première info, tu voulais nous parler de la taxe GAFA, c'est ça ?
Eh oui, je poursuis la série Netflix sur la taxe GAFA. Donc après la saison 1 cet été où le projet de loi visant à taxer à hauteur de 3% les chiffres d'affaires respectifs des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et toute la clique qui exercent en France, ce projet de loi a été définitivement adopté cet été. Et puis, s'en sont suivies des menaces plus ou moins sérieuses de la part de l'administration Trump. Depuis ce lundi 2 décembre, le gouvernement américain, à la veille d'une rencontre avec Emmanuel Macron ce jour, a menacé d'imposer des droits de douane additionnels pouvant aller jusqu'à 100%. Et parmi les produits susceptibles d'être taxés, on retrouve le fromage, les yaourts, le vin pétillant, les cosmétiques, le savon, le maquillage ou encore les sacs à main. Donc là, on cible bien des industries exportatrices et rentables pour la France, qui sont la gastronomie, les vins et les spiritueux, la cosmétique et le luxe. Moi, j'ai une question, comment vont faire les Kardashians sans tout ça? Ou en tout cas, c'est pas sans tout ça, mais taxé à 100%, ça va revenir très très cher. Pour l'heure, Bruno Le Maire a qualifié d'inacceptables les mesures américaines et a ajouté que la France ne renoncerait jamais à la taxe GAFA. À l'heure où nous enregistrons, nous ne savons pas ce qui s'est dit entre Trump et Emmanuel Macron, mais je pense qu'à la suite de la série GAFA, n'en est qu'à sa deuxième saison. À suivre.
Tu voulais continuer, Laetitia, avec le Black Friday ?
Oui, alors là, je vais vous donner les chiffres du Black Friday aux États-Unis et non pas en France, parce que les chiffres ne sont pas parus encore. En tout cas, la FEVAD n'a pas sorti de communiqué officiel. Donc, le Black Friday aux États-Unis, c'est à ton avis, on n'a rien dit un chiffre. Bon, t'as dû le voir passer.
Je dirais au hasard 7,4 milliards.
Voilà, que je suis bête. Oui, il a vu passer la news comme tout le monde ici. Oui, voilà, 7,4 milliards de dollars et c'est encore un record pour ce Black Friday aux US. C'est un chiffre en hausse de plus de 19,6% par rapport à l'année dernière et c'est le deuxième plus gros volume de ventes réalisé depuis le Cyber Monday de 2018 qui lui avait atteint 7,9 milliards de dollars. Ces chiffres-là sont dévoilés par Adobe Analytics qui a mesuré les transactions réalisées par 80 des 100 plus grandes enseignes de la grande distribution américaine. La part du mobile, en fait, de nombreux achats ont été effectués par mobile. À ton avis, Adrien ?
Moi, je dirais 50%.
Un tout petit peu moins, 40%. C'est énorme, je trouve. Enfin, surtout sur le territoire américain, ça représente... je sais pas ce que ça représente, mais je trouve que ce chiffre est assez énorme. Et parmi les produits populaires, une idée ?
Amazon doit être super leader, donc ça doit être des produits ouais. Amazon. Les assistants, sûrement ?
Pas du tout. Non, bah alors là, j'étais assez surprise. Arthur, une idée ?
Okay. Non ?
Alors, ce sont les jouets issus du dessin animé... La Reine des Neiges.
Ah, donc, le timing était parfait.
Exactement, tout était parfait. Ensuite, les poupées LOL. Je ne sais pas si tu connais les poupées LOL. Moi, je les connais bien avec ma fille. C'est moche, c'est relou, c'est tout petit. Ça coûte cher pour rien. Et ensuite, on a les jeux vidéo et notamment FIFA 2020. Et je ne pensais pas du tout retrouver les jeux vidéo dans les tops. Je pensais plutôt à des choses vraiment high-tech et pas du tout. Peut-être que sur le Cyber Monday, c'est ce qu'on retrouvera. Mais alors là, en tout cas, pour le Black Friday, pas du tout. Et enfin, on retrouve les AirPods d'Apple. Les chiffres français, comme je vous le disais, ne sont pas tombés, mais la FEVAD avait prévu 1,7 milliard d'euros sur les 4 jours allant du Black Friday au Cyber Monday.
Et justement, pour enchaîner, tu voulais nous parler du Cyber Monday.
Oui, et encore une fois, je vais vous parler du Cyber Monday, mais aux États-Unis. Le Cyber Monday, donc, c'est le lundi qui suit le week-end du Black Friday, et les chiffres devraient atteindre les 9,2 milliards aux États-Unis, donc encore plus que le Black Friday. À suivre.
Autre news qu'on a vu passer, c'est Vinted, que tu connais bien, Laetitia. T'as déjà acheté dessus ?
Non, alors j'ai très peur d'acheter dessus.
Pourquoi ?
Je sais pas, je suis pas du tout en confiance, mais je sais que la plateforme est archi sécurisée, mais je sais pas, j'ai des petites craintes, voilà. Pour moi, le parcours utilisateur est assez, c'est hyper fluide. Par contre, comme on a le choix de payer soit directement la personne, le vendeur, en physique, ou via la plateforme, je sais pas. En fait, je suis perdue sur cette plateforme.
Ah, en tout cas, tu dois être minoritaire dans ce cas-là parce qu'ils ont un succès fou. On en avait déjà parlé il y a quelques épisodes et j'ai l'impression qu'on en parle même souvent. Pour rappel, Vinted, c'est une place de marché, une marketplace qui propose des produits reconditionnés, de seconde main plutôt.
Ouais, c'est de la seconde main. Et c'est des particuliers qui vendent à des particuliers.
C'est ça. Et donc, pourquoi on en parle ? Parce qu'ils ont levé de l'argent, 141 millions de dollars. C'était en euros, je crois d'ailleurs. 138 millions d'euros, je crois. En tout cas, dans ces eaux-là, pour une valorisation à plus d'un milliard de dollars. C'est une société qui est basée en Lituanie, ce qui fait la plus grosse licorne du pays. Et dans le coin, il y a en Estonie la société Bolt qui s'appelait Taxify, le concurrent d'Uber, qui est également une licorne dans cette région. Donc, quelques chiffres pour Vinted, c'est 180 millions de produits qui sont sur la plateforme et 25 millions d'utilisateurs qui sont enregistrés dans 11 marchés sur lesquels ils travaillent.
On passe tout de suite à l'Amazon.
Pour cette semaine, il y avait pas mal de news Amazon qu'on voulait changer. J'en ai choisi une, Laetitia, qui me paraissait intéressante parce que ça va complètement dans la continuité de ce qu'on voyait ces dernières semaines. C'est une autre marque qui quitte Amazon. Vibram, est-ce que tu connais ?
Pas du tout.
T'avais jamais entendu parler ?
Non.
C'est des chaussures spécialisées. Et donc, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient, qu'ils mettaient un terme au partenariat qu'ils avaient avec Amazon. Ça va dans la continuité de ce qu'on avait vu avec IKEA et surtout avec Nike il y a quelques jours. Ce qui était amusant, c'est qu'il y a quelque chose qui a refait surface. C'est une marque qui s'appelait Allbirds qui, pareil, propose des baskets assez techniques. Et ils se sont rendus compte, Allbirds, donc société américaine, qu'Amazon avait récupéré beaucoup de choses par rapport à leurs chaussures. Ils avaient développé leur propre basket qui était très similaire à ce que Allbirds proposait, à la moitié du prix. Donc là où Allbirds proposait leur basket à $90, Amazon le proposait à 45. Donc le CEO d'Allbirds avait fait une lettre ouverte à Amazon il y a quelques jours qui n'a pas eu de réponse. Donc tu as d'un côté des marques qui veulent qu'Amazon les aide dans la contrefaçon et Amazon n'y arrive pas complètement. En plus, tu as Amazon qui s'inspire beaucoup des produits qui sont vendus, des meilleurs produits et qui vendent en propre. Donc ça va court-circuiter. Et en plus, tu as tous les retailers avec lesquels on a l'habitude de travailler et de parler qui sont en train de voir Amazon arriver partout et qui sont leurs concurrents.
Du coup, Adrien, tu viens de dire ce que j'avais envie de te poser comme question parce que en fait, on l'a déjà évoqué dans cette émission, souvent, des retailers se plaignent parce que Amazon permet la contrefaçon et que beaucoup de Chinois vont sur Amazon pour s'inspirer et développer leur propre marque et leur propre contrefaçon. Maintenant, si Amazon se met à copier ses propres clients, ça devient compliqué.
En toute légalité, c'est pas de la contrefaçon, mais telle une toile d'araignée, ils vont tisser les produits. On les voyait dans certains produits clés ou les Amazon Basics, les choses très, très basiques. Et là, on voit que ça va sur des produits de plus en plus complexes. Et vu qu'ils ont toute la data, ensuite, à un moment donné, ils vont être concurrents de tous ces acteurs. On en parlera la prochaine fois, mais j'avais récupéré pas mal d'informations parce qu'ils ont communiqué sur des chiffres, sur le nombre de sellers, de vendeurs tiers sur leur plateforme. Et il ne faut pas oublier, donc il y en a certains qui se plaignent, mais il y en a énormément qui n'auraient jamais existé s'ils ne pouvaient pas vendre sur Amazon. Donc, je dirais, il ne faut pas diaboliser non plus Amazon. On en reparlera au prochain numéro. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas non plus complètement noir.
On passe aux news simple et funky. Et je commence avec Payplug qui s'allie à Honey pour proposer le paiement fractionné garanti auprès de ses clients TPE-PME.
AliExpress France qui réfléchit à ouvrir un magasin en France.
Les Français passent en moyenne 21 minutes par jour sur YouTube.
Et enfin, Amazon qui annonce qu'ils ont 3 millions de vendeurs tiers sur leur plateforme.
Et notre instant réclame. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, laissez vos commentaires ainsi que 5 étoiles si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast. Ce serait très sympa de votre part, ça nous permettra de remonter un peu et d'être dans les podcasts à découvrir.
Partagez cet épisode autour de vous si vous sentez qu'il apporte de la valeur, qu'il vous aide. Échangez-le à vos collègues de travail ou à vos amis. Et n'hésitez surtout pas également à regarder la description. On met toutes nos sources, on met des liens pour pouvoir nous contacter, pour regarder, pour aller plus loin dans cet épisode.
Et nous sommes un podcast indépendant, nous ne sommes affiliés à aucune société privée. Notre avis n'engage que nous.
Si vous souhaitez nous contacter ou enregistrer ou assister à l'enregistrement, contactez-nous. On enregistre à Paris. Aujourd'hui, on est quoi ? On est mardi, Laetitia, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On est mardi soir et on est à Paris. Laetitia, deuxième partie de l'émission avec le rubrique social media. Tu voulais nous parler d'Instagram, n'est-ce pas ?
Oui, je vais parler de ma plateforme fétiche après Pinterest, Instagram. Alors, on l'a déjà dit ici, Instagram se développe sur le e-commerce et il y a une fonctionnalité que je ne connaissais pas mais qui est développée aux États-Unis qui s'appelle Instagram Checkout. Donc, c'est la méthode de paiement proposée par Instagram depuis mars dernier et c'est développé à un certain nombre de retailers parmi lesquels... Nike, Zara, Adidas, Steve Madden, Prada, mais aussi des multimarques telles que Net-a-Porter, Schofields. Voilà, donc c'est une fonctionnalité shopping qui propose donc la mise en vente et l'achat de produits in-app. Donc on ne sort pas de l'application et tout se fait via Instagram. C'est quelque chose qui est assez innovant parce que c'est toujours compliqué de faire in-app. Mais bon, en même temps, c'est Instagram, c'est la moindre des choses. Et quelque chose qui a fait écho en moi, c'est que début novembre, il y a Facebook qui a annoncé sa méthode de paiement commune à toutes ses plateformes. Or, Instagram appartient à Facebook Group. Donc moi, je me demande si Instagram Checkout va disparaître ou va être remplacé par Facebook Pay. Vraisemblablement, ça va être remplacé par Facebook Pay. Et ma petite conviction intime, c'est que Checkout a vraiment influencé la technologie et l'expérience utilisateur de Facebook Pay.
Est-ce que tu sais si c'est disponible en France déjà ?
Non, pour le moment, ce n'est pas disponible en France, uniquement aux US.
Tu n'as pas pu le tester ? Tu n'as pas pu voir à quoi ça ressemble ?
J'ai vu quelques screenshots, c'est hyper simple. Hein. Voilà. Tu vois comment c'est sur Instagram ? Non ? Oui.
Un petit peu. Chaque semaine, ici, on m'explique comment ça fonctionne.
Alors en fait, tu vas sur le catalogue de l'enseigne, enfin pas sur le catalogue, sur la page Instagram de l'enseigne, tu as un petit bouton, tu cliques dessus et là, tu as le montant du prix de l'article. Une fois que tu cliques dessus, de ce que j'ai vu des screenshots, tu bascules sur une autre page mais qui est toujours dans l'app et tu as le descriptif produit, tu as toute la fiche produit et ensuite tu as un bouton buy et là, tu peux acheter et tu es toujours dans la plateforme. Et je crois que ça se fait en 3 clics, même pas l'achat.
Et les marques que tu as pu voir, c'est des très grosses marques et des plus petites. Je me serais attendu à voir juste des petites marques. Alors, et finalement, ils ont toutes les tailles.
Non,
c'est plutôt bien.
On voit qu'il y a du luxe hein, avec Prada. Par contre, il y a de très grandes marques type Dior qui n'y figurent pas pour le moment. Et on se demande quand est-ce que l'industrie du luxe va enfin franchir le pas. On sait que des plateformes comme Instagram, ça a propulsé, ou même TikTok, et j'en parlerai dans un prochain épisode, ou même avec Snapchat, on a des plateformes qui ont vraiment propulsé l'industrie. Industrie du luxe qui ont permis des campagnes virales de dingue et voilà, je pense que ces marques-là attendent encore que la plateforme fasse ses preuves.
Il y a toutes les données, tu les as pas. Enfin, tu as juste les achats, mais tu n'as pas le nombre de visiteurs, le taux d'ajout au panier, tu contrôles pas l'expérience.
Tu peux l'avoir, ça. Instagram, c'est la plateforme par excellence où tu peux avoir toutes les données.
Tu es sûr qu'ils te communiquent tout ça ? Parce que par définition, c'est sur...
Retailer, tu peux avoir.
En tant que retailer,
ouais. Tu as un compte où tu as accès à... Alors, je ne sais pas si tu peux avoir accès à l'identité de l'acheteur, mais en tout cas, tu peux savoir d'où il est venu, s'il est venu par un autre compte ou quoi que ce soit. C'est hyper précis.
En général, sur ces outils tierces, ces plateformes, ces solutions tierces, tu perds le customer journey parce que ce n'est pas ta plateforme. Donc, tu as juste les informations filtrées qui vont être données par la plateforme. Et c'est pour ça que beaucoup de marques sont réticentes. Mais tu ne contrôles pas déjà l'expérience utilisateur et tu n'as pas toute la data. Donc, on avait vu il y a quelques années avec Facebook, mais il n'y avait pas la même maturité. Donc, je me garderais bien de le comparer à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense comme toi que pour le moment ça va être des tests, on va voir les retombées si ça va être des choses positives ou pas, mais c'est ça m'étonne pas que le luxe va pas foncer dedans parce qu'ils ont jamais été les premiers à se lancer dans ces choses là. Par contre, quand ils vont y arriver très très bien, ils seront bien manipulés
et avec beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, nous recevons Arthur. Arthur, enfin maître, j'aurais dû dire, maître Arthur Milrand, avocat associé chez Parallèle Avocat, le cabinet des plateformes et de l'économie numérique.
Laetitia, on le tutoie ou on le vouvoie ?
Bon, moi je le tutoie, hein. Enfin, je ne sais pas, maître, tu veux faire quoi, maître ?
Il faut me tutoyer.
Voilà. Parmi les clients du cabinet de Parallèle Avocat, nous avons Mano Mano, We Maintain, Dravi, Marcel, In Memory, tout un tas de plateformes digitales que le cabinet a accompagnées. Arthur, bienvenue et merci.
Merci à vous.
Arthur, tu peux nous parler un petit peu de toi, du cabinet, de ton expérience et comment tu en es arrivé à devenir un expert juridique de la plateforme ?
En deux mots, mon associé Michel Leclerc et moi, on a créé un blog en 2013 qui s'appelle Droit du partage et qui visait à analyser l'émergence de l'économie collaborative et de tous ces nouveaux modèles axés autour des plateformes et du digital. La réalité, c'est que ce qu'on voyait à l'époque et ce qu'on analyse depuis 6 ans maintenant, c'est l'avènement de ces nouveaux objets, de cette nouvelle forme business qui est la plateforme, qui a pris aujourd'hui une place prépondérante dans tout un tas de secteurs, et le e-commerce en particulier. Donc c'est depuis 2013 qu'on a des clients, qu'on s'intéresse à ça, qu'on conduit à la fois des travaux dans nos dossiers, mais aussi des travaux de recherche, à la fois le blog, on a écrit un livre et on publie une revue depuis mai 2018. Donc tous ces travaux nous conduisent à analyser ça en profondeur et je serais ravi d'en partager quelques éléments avec vous aujourd'hui.
Super. Alors, moi, j'ai une première question, Arthur. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme ? Parce qu'ici, avec Adrien, nous, on a notre propre définition de la plateforme, voilà, parce qu'on vend, de par nos expériences, des plateformes, mais on se rend bien compte qu'il y a plein de plateformes. J'en sais rien, là, je pense au marketplace, mais je pense aussi aux plateformes de réseaux sociaux, les plateformes communautaires, les plateformes d'avis. Voilà, moi, j'ai l'impression que le mot plateforme, c'est un peu tout, n'importe quoi, utilisé parfois à bon ou mauvais escient. Tu peux nous donner une définition de la plateforme ?
Alors, je peux donner une définition juridique. La définition juridique, c'est un opérateur de plateforme en ligne. Donc, on définit la société qui opère la plateforme et elle a deux grandes fonctions. Soit elle classe du contenu, que ce soit des informations, des offres de produits ou des offres de services. Et l'autre grand type, c'est de la mise en relation. Donc, on va vous présenter, vous allez être présenté en ligne à quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de réaliser des transactions. Donc ça, c'est la définition juridique. Après, ce qui est vrai, c'est que plateforme a un mot, a une signification commune dans le langage qui conduit chacun à s'en servir. On parle de l'état plateforme, la plateforme ceci, la plateforme cela, ce qui est devenu quasiment un terme commercial où des gens qui ne sont pas juridiquement une plateforme se présentent comme plateforme. Donc nous, notre métier est souvent compliqué quand on a affaire à ces clients-là, puisque ils ignorent qui ils sont juridiquement. Ça paraît idiot, mais en fait, vous dites que vous êtes une plateforme sans vous rendre compte qu'il y a un régime juridique qui est accroché à ça. Donc voilà, ça c'est pour répondre à ta question. La définition et le terme même est sujet à discussion.
Très bien. Et qu'est-ce que ça change pour une plateforme qui fait du e-commerce ?
Ça change en fait, toute la structure de la vente a évolué. Au début, on avait une boutique, on vendait en direct, c'était très simple, vous aviez un commerçant, vous aviez des clients. Ensuite, au milieu des années 50, au milieu du 20e siècle, il y a émergence de la vente à distance. Donc on se met à acheter sur catalogue, pour le dire très schématiquement. Et c'est l'ancêtre de la Fevade qui avait ses premiers adhérents à cette époque-là. Internet massifie les usages et la vente à distance, et ça a donné naissance dans les années 90 au e-commerce. Donc en fait, on vend à distance, mais on vend en ligne. La vraie différence de la plateforme et de l'avènement de ce nouvel objet, c'est une relation qui n'est plus à deux, donc avec un vendeur, un acheteur, ou un prestataire et un bénéficiaire du service, mais une opération à trois personnes où vous avez l'opérateur de la plateforme qui va opérer le marché, opérer la place de marché, et ensuite les personnes qui sont mises en relation, présentées ou qui obtiennent de l'information grâce à cet acteur-là. Donc si avant, quand on voulait acheter un secrétaire, on va dans une brocante, aujourd'hui, il est très facile d'aller en ligne et vous allez avoir un réflexe très bête qui est de taper secrétaire dans une barre de recherche et vous allez voir ce qui vous est proposé. Et vous n'allez plus forcément faire l'effort d'aller en physique. Et ça, c'est la vraie mutation.
Du coup, il y a plus d'acteurs et ça complexifie les relations qu'il y a entre ces acteurs, c'est ça ?
Oui, il y a beaucoup plus d'acteurs. Si on prend le top 10 des capitalisations boursières mondiales, vous trouverez des grandes marketplaces comme Amazon. Si vous prenez les chiffres de la Fevade au troisième trimestre, le top 10 des sites de e-commerce les plus visités, vous allez avoir 80% de plateformes, au sens juridique, j'entends. Et si vous prenez le Next 40, donc les 40 boîtes françaises plus prometteuses, vous allez avoir plus de 50% de gens qui sont ou se présentent comme des plateformes. Donc vous avez une explosion du nombre d'acteurs qui prouve bien que ça correspond à un besoin, qui trouve un modèle d'affaires. Et ensuite, il y a des gens qui bénéficient de cet effet commercial, j'allais dire, de se présenter comme une plateforme.
Moi, j'ai une question relative au marketplace. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que juridiquement une marketplace? Comment est-ce qu'elle est encadrée? Et à ton avis, parce qu'il y a encore quelques, allez, je dirais 2-3 ans, dans le e-commerce, on voyait la marketplace vraiment comme l'Eldorado du e-commerce. Est-ce que c'est toujours le cas?
Est-ce que tu as vu aussi une explosion justement de ce qui se définissait comme marketplace? Et peut-être des gens qui vont se dire on est une marketplace, mais en fait, ils n'en sont pas.
Deux grandes choses là-dessus. Ce qu'on croit au cabinet, c'est que la plateforme, c'est l'avenir du e-commerce, mais aussi de tout un tas de secteurs. Quand nous, on a commencé à travailler en 2013, il était inimaginable de commander une voiture avec son portable en sortant de votre bureau. Aujourd'hui, c'est devenu tellement classique qu'on n'interroge même plus cet acte de consommation. Ce qui prouve bien que la place de marché, au sens où vous ne vous rendez même plus compte que vous êtes sur une place de marché, c'est intéressant, vous faites une demande de course et vous avez un indépendant qui arrive et qui va vous conduire là où vous voulez. L'infrastructure numérique vous a présenté un prestataire de service. La puissance de la plateforme, elle réside dans la facilitation de l'expérience utilisateur, dans l'intégration complète du parcours et dans la connexion de l'offre et de la demande, que ça soit parce que vous allez acheter quelque chose ou juste parce qu'on va vous donner l'information que vous recherchez. Et ça, c'est fondamental parce que ça épouse les trois grandes préoccupations des sociétés qui sont nos clientes. C'est un, tout le monde a besoin de vendre en ligne aujourd'hui. Votre podcast, il est distribué en ligne. On a un site internet. Donc en fait, indirectement, on fait la promotion en ligne de nos services juridiques. Ça, c'est la première chose. Tout va devenir du commerce électronique. Donc en fait, on ne réfléchit même plus de savoir combien on est, c'est juste que avoir une vitrine et vendre en ligne est un impératif aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la technologie va déjà aujourd'hui changer les choses. Vous avez Internet, tous les moyens de paiement en ligne et les outils pour y accéder, donc que ce soit essentiellement du mobile ou des tablettes ou des ordinateurs, mais l'explosion du mobile à la fois dans la consommation, dans le nombre de gens qui fréquentent des sites sur mobile et en grande explosion, et ce que tu disais tout à l'heure est un bon exemple. Et la troisième chose, c'est évidemment les données. C'est-à-dire que les données, c'est un mot moderne juste pour dire information. On peut savoir tellement de choses sur son client, sur son marché et sur ses concurrents grâce à l'information qu'en fait, intégrer complètement les gens dans un parcours vous permet de mieux comprendre dans l'univers dans lequel vous êtes. Avant, vous aviez une boutique, vous aviez un pas de porte, vous saviez si vous étiez dans plutôt une bonne zone, une mauvaise zone. Vous le saviez comment? Parce qu'on vous l'a dit, parce que c'était cher et parce qu'il y a des gens qui passent. Aujourd'hui, le numérique vous permet de mesurer des choses qui jusqu'à présent étaient ignorées et qui changent en fait fondamentalement les choses. Et donc la plateforme donne de la visibilité à celui qui opère le marché. Et ensuite, il peut y avoir une vraie question, et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça c'est une problématique qu'on observe, c'est ces plateformes qui ont envie de devenir eux-mêmes des vendeurs ou des prestataires sur leur propre infrastructure digitale et se posent des questions de loyauté, de transparence, de la manière dont fonctionnent les algorithmes. Parce que si, en gros, vous vendez des produits sur votre propre plateforme et que vous êtes systématiquement numéro un des requêtes, le consommateur doit le savoir. Ça, c'est une obligation d'information. Il faut donner de la transparence sur le fonctionnement. Ça, c'est le début du droit des algorithmes et de leur transparence. Et le 3, c'est du droit des données personnelles. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous savez dans votre métier marketplace ne peut pas vous servir pour gérer votre métier de retailer. Et ça, aujourd'hui, on est, disons, aux prémices de ce que sera le monde de demain, et en particulier les éléments juridiques.
Les trois points là que tu es en train de lisser, c'est des obligations légales?
Non, ce n'est pas des obligations légales. Les obligations légales, c'est un, transparence sur comment ça fonctionne, transparence sur comment sont classés les biens, services ou contenus, et pas de conflit quand on est courtier. Donc quand on est une plateforme, je vais vous présenter tous les deux. Si j'ai un lien d'intérêt avec toi, Adrien, parce que tu m'as payé un abonnement.
Ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas.
Mais si j'ai un lien contractuel ou financier, il faut que je le dise à tous les consommateurs pour que Laetitia et tous les autres soient au courant que quand on va contracter avec toi, en fait, tu as un lien avec moi. Donc ça, c'est des obligations qui sont légales. Ensuite, il y a quelques obligations de nature fiscale, mais le régime existe en France depuis 2016 et on est très novateur par rapport à l'Union européenne qui commence juste à développer ses obligations.
Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression sur cette dernière partie, il y a des choses qui existent, ça fonctionne plus ou moins, enfin, de ma perception de consommateur. Par contre, sur expliquer un algorithme ou expliquer pourquoi tel produit est devant, j'ai jamais vu un site qui communique autour de ça. Ou alors j'ai mal regardé, non ? Enfin, personne ne le fait, ça.
Bah, alors, je pense que c'est... Alors, le défaut est dans ta question. C'est que les acteurs le font. Vous avez souvent dans le footer en bas une rubrique information consommateur où est décrit la manière dont est modéré, où sont modérés vos avis, la manière dont sont classés les contenus. Et ensuite, il y a des choses qui vous paraissent logiques mais qui résultent d'une obligation juridique. C'est typiquement les offres sponsorisées sont mises en valeur. Typiquement, vous avez un classement des offres avec le menu déroulant. Souvent, c'est pertinence par défaut. Et dans la rubrique consommateur, on vous explique ce que veut dire pertinence. Mais si vous voulez classer par date, c'est une manière d'expliquer. Plus généralement, il y a un vrai sujet d'explicabilité et d'auditabilité de l'algorithme. Parce que, encore une fois, nous, avocats, chez Parallèle, on connaît très très bien les modèles de nos clients. On sait les orienter sur comment changer leur process et leur parcours utilisateur. Pour autant, on n'est pas dans le produit. On est capable de le comprendre. Mais donc, ce qu'on écrit n'est pas forcément le code.
Et pour rebondir là-dessus, donc j'ai travaillé pendant des années pour une plateforme e-commerce. Tu le citais cet exemple, parce qu'on en a tellement parlé à l'époque, j'en parlais beaucoup. Tu écris pertinent sur le site internet, mais derrière, tu mets ce que tu veux. Donc il y a des retailers, par défaut, ils vont dire tu vas chercher d'abord l'occurrence du mot dans le titre. Ensuite, ça a une pondération moindre dans la short description, dans la description longue, et puis ensuite n'importe où dans les caractéristiques du produit. Et ensuite, tu mets tout ça dans ça, ça te fait l'algorithme. Mais rien ne t'empêche, et des clients le faisaient, de mettre dedans ma marge, le taux de conversion, ma disponibilité en magasin ou en stock, parce que tu veux écouler d'abord un certain nombre de produits. Donc, c'est plus vraiment juste de la pertinence et ça devient compliqué. Oui, c'est de la pertinence, mais je vais pousser peut-être les produits qui marchent le mieux ou ceux qui sont de la saison dernière parce que...
Du coup, tu pousses du contenu.
Ouais, mais personne n'est fautif. C'est juste dans la transparence. Déjà, il faut être transparent et ensuite, il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est juste un bordel sans nom. Enfin, moi, je le vois déjà techniquement derrière. C'est compliqué. Et puis, il y a des changements qui arrivent tout le temps. Enfin, chaque semaine, tu vas faire des modifications. Ça doit être très compliqué à gérer. Et pour le consommateur, ça doit être encore plus perturbant. Enfin, j'ai jamais cliqué sur un lien en footer, je savais même pas qu'il y avait ces informations, quoi.
Quand on a une clientèle comme nous d'entreprises innovantes, vous allez nécessairement plus vite que le régulateur. Donc en fait, nous on est des experts de la zone non régulée ou pas encore régulée. Donc c'est une zone de liberté parce que l'acteur peut faire ce qu'il veut tant que c'est pas interdit. Mais c'est aussi une zone où il faut être extrêmement responsable pour anticiper et avoir une lecture réglementaire, pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'en gros, si tu te fais contrôler et que c'est si évident que tu fais n'importe quoi et que tu pousses tes vieux produits, tu vas être sanctionné par la DGCCRF.
Et justement, Arthur, c'est quoi les pratiques aujourd'hui qui sont faites et qui sont illégales ? Alors, il n'y a peut-être pas de sanctions, ou peut-être qu'il y en a, mais c'est commun, tu le vois partout. Et aujourd'hui, les acteurs n'ont pas encore fait de modif. Ou il n'y a rien de choquant, d'illégal ?
Bon, ça, c'est très difficile de dire. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que le droit de la consommation tel qu'il est fabriqué est totalement inadapté aux modèles digitaux. Donc, typiquement, l'exigence de vous mettre à disposition toute l'information avant que vous contractiez. Ça, c'est logique. La réalité, c'est que quand vous devenez membre d'une marketplace ou d'une plateforme, au sens général, vous allez accepter des CGU. En cliquant sur une case, j'accepte. Pour autant, est-ce que ça t'a mis en mesure, toi, consommateur, de te rendre compte de tes engagements et de ce que tu as vraiment souscrit ? Ça, ce n'est pas vraiment une question juridique, c'est plutôt une question de politique et d'approche de la concurrence et de ce que c'est que de consommer aujourd'hui. Mais ça, ça va se construire. Et ce que nous, au cabinet chez Parallèle, on croit profondément, c'est qu'on est à l'aube d'une vraie modification de paradigme. C'est-à-dire que des choses qu'aujourd'hui, on accepte, personne ne les aurait acceptées dans 20 ans. De la même manière, il y a des choses aujourd'hui que vous n'acceptez plus, comme par exemple participer à une plateforme type Blablacar ou Drivee sans avoir d'assurance. Quand on a commencé à bosser, il y avait des gens qui opéraient sans assurance parce qu'en fait, la confiance, ils la généraient autrement. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, au cabinet, l'hygiène. Il va y avoir de l'hygiène numérique, de la même manière qu'en gros, on se lavait pas les mains, on s'est mis à se laver les mains. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'en gros, on laisse une empreinte délirante sur Internet avec nos données. Et dans 30 ans, eh ben, peut-être qu'en fait, les pratiques et les standards d'horaires marché auront tellement évolué que vous allez plus fonctionner pareil. Et ça, c'est vraiment de l'éducation.
Et ça viendra peut-être aussi avec des travers, des problèmes, des scandales, ce genre de choses qui va permettre de réguler peut-être comment on traite les données, plus que par la loi. c'est les consommateurs qui se rendront compte et qui vont mettre la barre plus haut.
Moi, j'ai pas très confiance dans le consommateur parce que je suis moi-même pétri de contradictions dans la manière dont je fonctionne. Mais j'ai tendance à croire que le scandale, oui, c'est le bon moyen de prendre conscience. Après, il faut travailler et ça, c'est l'éducation. Et ça, c'est tout le monde qui a un rôle, c'est les parents, les professeurs, les administrations, tout le monde doit éduquer son prochain au numérique. Nous, on est confrontés structurellement à des juges, à des enquêteurs qui ont 50, 55 ans et qui ne sont pas nés avec ça. Et de la même manière, vos enfants, vos nièces, vos neveux ne réagissent pas du tout de la même manière avec un objet digital. Et donc ça, c'est vraiment mettre en place de l'hygiène. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra un problème de santé publique au sens de pas de la santé parce que vous êtes malade, mais pour renvoyer au terme d'hygiène.
Arthur, je parle souvent de réseaux sociaux dans ce podcast. Tout à l'heure, j'évoquais Instagram, qui a fait une belle percée dans le e-commerce. Les réseaux sociaux dans le e-commerce, c'est un mini cataclysme pour le moment. C'est pas juste un pétale comme ça lancé. Il y a quand même, ça a fait bouger pas mal de choses. Est-ce que toi, dans ton métier, les réseaux sociaux ont fait bouger des lignes juridiques ou des cadres juridiques? Comment est-ce que vous appréhendez les réseaux sociaux? Ou je ne sais pas moi, si vous avez un client qui est sur les réseaux sociaux, comment ça se passe?
Et la corollaire, pardon, ça va faire une longue réponse, c'est la plupart de ces réseaux sociaux ne sont pas en France. Est-ce que ça a un impact? Parce que du coup, la donnée, et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas la réponse que tu vas donner sur la donnée, mais la donnée notamment, elle n'est pas stockée, hébergée. À la limite, peu importe où elle est hébergée, mais le siège de la société, il n'est pas là parce que c'est Internet, on peut aller de partout. Est-ce que ça a un impact, ça? Je vois que tu prends plein de notes.
Non, mais je prends des notes parce qu'il faut que j'essaie de répondre à tout, c'est difficile. Les réseaux sociaux, c'est un super objet d'étude. Parce qu'en fait, on dit réseaux sociaux, personne ne viendrait, ça viendrait à l'idée de personne de les définir comme des marketplaces. Pourtant, juridiquement, c'est des opérateurs de plateforme. Parce qu'en fait, ils classent du contenu, vous trouvez du contenu, vous y allez et c'est beaucoup plus visible depuis qu'il y a Facebook Marketplace et depuis qu'Instagram fait ce que tu décrivais. C'est que la réalité de la manière dont ils opèrent, c'est qu'ils se mettent à vendre ou ils se mettent à permettre de vendre. Donc, c'est devenu des vrais marketplaces. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme impact? Ils ont eu un impact qui est de se rendre compte que tu pouvais communiquer de manière instantanée et être mis en relation de manière instantanée. Donc, ça a fluidifié les échanges. Ensuite, la deuxième chose, c'est tous les modèles numériques de ce type-là ont l'éternelle tension entre ça favorise la liberté d'expression et ça favorise aussi de s'auto-centrer sur des obsessions qui sont les siennes. Donc en gros, vous avez un profil excessif, vous allez avoir qu'un newsfeed excessif. Et donc ça va vous entretenir dans la croyance de la bulle cognitive. En gros, vous avez l'impression que autour de vous, tout le monde est raciste parce que vous l'êtes. Et donc en fait, vous avez ce phénomène qui finit par tourner en rond.
Pardon, juste sur ce point-là, excuse-moi, le principe des réseaux sociaux, c'est que tu restes et que tu es engagé. Donc, plus on va te mettre des choses polémiques,
plus tu vas nourrir, en fait, la plateforme.
Et quand tu la nourris, en fait, elle va te pousser des nouveaux contenus. Donc, ça, c'est ce que vous décrivez très bien. Il y a eu un impact décisif. C'est le scandale Cambridge Analytica sur les données. Je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, il y a des lois ou des projets de régulation qui visent en particulier les réseaux sociaux, type lutte contre la haine et le racisme, lutte contre les contenus terroristes et les fake news. Tout ça, ce sont des règles qui sont fabriquées, pas exclusivement pour les réseaux sociaux, parce que ça concerne plein d'autres mondes, mais c'est très critique pour ces modèles-là. Pour les données et les sociétés basées à l'étranger, le sujet, c'est pas trop celui-là. Parce qu'en fait, des données personnelles, contrairement à ce que tout le monde dit tout le temps, une société n'en devient pas propriétaire. Le seul propriétaire, c'est la personne concernée. La société X ne va pas devenir propriétaire de ton prénom ou de ton nom. Ce qui existe et ce qui est vrai, c'est que la société va constituer une base de données, constituée de tout un tas d'entrées. Ces entrées, c'est des traitements de données personnelles. Et ce qui est important, c'est que cette base de données soit légalement constituée. Donc, respecter tout un tas d'obligations. Le RGPD et toute la presse qu'il y a eu autour a permis de prendre conscience de ça. Les transferts à l'étranger sont encadrés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, responsable de traitement, transférer des données, disons, d'Européens vers un pays tiers où la protection n'est pas adéquate et pas équivalente. En revanche, si vous le faites, à moins d'être contrôlé, personne ne va vous critiquer. Mais je préfère cet univers de liberté où, en gros, c'est un contrôle a posteriori. C'est voilà les règles, il faut être responsable. Si je te contrôle et que je te prends le doigt dans le pot de confiture, je te sanctionne. Je préfère ce système-là à un contrôle a priori où on te dit merci d'aller voir l'autorité, dire ce que tu fais, que l'autorité le valide et qu'ensuite tu le fasses. Parce que dans un cas, c'est une économie quasi réglementée et régie par l'État et les administrations. Dans un autre cas, c'est un marché plus libéral où on fait confiance aux individus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Oui, complètement.
Ce que tu viens de dire sur les modèles un petit peu plus libéraux, on le voit très bien ici en Occident ou aux États-Unis. En l'occurrence, en Chine, je ne suis pas certaine.
Bah, de toute façon, ça, le rêve de tous nos clients et le fantasme sur les avocats, c'est qu'en gros, il y a un grand livre très clair où seuls les avocats ont accès et il suffit de leur demander.
Ouvre
et dis-moi.
Alibaba.
Ça fait quasiment, c'est pratiquement aller en pèlerinage à Delphes et aller voir l'oracle et demander comment va se passer le lendemain. Malheureusement pour nous, notre compétence, elle est limitée au droit français et au droit européen. Pour ce qui est de la Chine, je suis incapable de dire si le raisonnement que je tiens est transposable. Réponse est sans doute non, parce que c'est un cas un peu extrême, où l'État prend beaucoup de place.
Mais justement, je te coupe, est-ce que justement, c'est pas ce vers quoi tu vas tendre peut-être un jour avec ce e-commerce chinois qu'on retrouve, Adrien le disait tout à l'heure, Alibaba réfléchit à ouvrir une boutique physique en France. Finalement, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec des clients avec des problématiques de marchands chinois Je suis pas très clair là. Mais
si, c'est clair, mais je pense que le nombre de marchands chinois sur Amazon est délirant. On a des clients étrangers qui viennent opérer en France, ils ont des problèmes de droit français, donc ils viennent nous voir pour se faire aider. Donc en fait, notre expertise continue d'être utile pour le marché français. Ce que je pense qui est exact à l'échelle de la planète, c'est le mouvement qu'on voit. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde devient un business digital. Ceux qui ne prennent pas le tournant maintenant ou dans les 5 ou 10 prochaines années, leur business peut fermer et peut disparaître. Ça, je pense que ce n'est pas juste de raconter n'importe quoi que de le dire. Nous, depuis 2013, qu'on bosse sur ces sujets, on s'en rend compte. Si vous ne prenez pas la vague, vous allez mourir.
Et tu vois déjà des acteurs qui n'ont pas pris la vague et
En tout cas, ce que je vois quotidiennement, parce que une partie de mon métier, c'est de défendre mes clients devant les tribunaux, ce que je vois, c'est des acteurs traditionnels qui résistent en faisant des procès plutôt qu'en innovant. C'est plutôt des gens qui se sont endormis et qui ont des gens plus ambitieux qui arrivent. Donc, la dynamique qui est de vendre en ligne, d'avoir des processus de plus en plus dématérialisés, de plus en plus fluides, type les paiements, c'est évidemment une dynamique business de long terme et structurante. En revanche, juridiquement, la dynamique, elle est inverse. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tout le monde puisse se rendre compte de ce qu'il fait et en fait de ralentir. Et typiquement, toutes les directives sur les paiements, la double authentification, c'est des choses qui ralentissent les parcours parce que ça vous fait sortir de l'app, ça vous fait mettre des codes, ça vous fait vous identifier une fois, deux fois, vous avez oublié un mot de passe. Et ça ralentit le mouvement business, mais c'est le rôle aussi de l'État que de protéger contre certains excès qui, en fait, peut-être que c'est pas nécessaire ni justifiable d'avoir des parcours si fluides que tu te rends même plus compte que tu achètes.
Pour rebondir sur la question de Laetitia, il y a de moins en moins de frontières. Donc, tu parles beaucoup de la France, sans aller parler en Asie, parce que c'est très, très différent. Par rapport au reste de l'Europe, les règles sont unifiées, c'est les règles européennes, ou est-ce qu'il y a des différences en fonction des pays?
C'est hyper intéressant comme question, et c'est passionnant juridiquement. Il y a une directive sur le commerce électronique de 2000. Chaque État membre l'a transposée, donc en gros, a adapté la règle européenne dans son droit. Donc théoriquement, c'est le même droit partout. Ensuite, les juges nationaux ont interprété cette loi issue du droit européen et la Cour de justice de l'Union a donné des grandes orientations et donne des grandes orientations à l'interprétation. Là, 15 ans après, on se rend compte qu'il y a des interprétations qui diffèrent entre les États membres. Donc en fait, l'Allemagne ne considère pas un éditeur ou un hébergeur exactement comme un Français. Donc ça, c'est la première chose. C'est que même si tu crées des règles, le juge reste capable de modeler à la marge les règles. Ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des règles qui sont créées et qui vont être créées et qui vont se développer. Le dernier exemple, c'est un règlement européen du 20 juin 2019 sur les plateformes qui régissent les relations entre les business users et la plateforme pour apporter plus de loyauté, plus de prévisibilité. Et ça, c'est un règlement qui s'applique de manière immédiate dans toute l'Union et qui uniformise une partie des pratiques. Et je pense qu'on va aller vers de plus en plus de règlements et de moins en moins de directives qui doivent être transposées pour éviter justement trop de disparités et pour favoriser l'émergence de ce que la précédente commission qualifiait de « digital single market ». Des directives, c'est des règles très générales qui doivent être transposées, donc adaptées.
Chacun
et précisées
comme il veut.
Dans la limite de ce que dit la directive. Donc en fait, tu as une zone de liberté
qui est un
restreinte.
Cadre, ouais.
Le règlement, il est d'application immédiate. Donc en gros, ce qui est écrit est appliqué.
Et le règlement, qui le fait ?
Le règlement, c'est l'Union européenne.
Ah ok, donc c'est ça la différence. Et on l'impose beaucoup
voilà.
plus.
Et le RGPD, donc le fameux règlement général sur la protection des données, est un règlement qui s'est appliqué de manière beaucoup plus rapide et uniforme à toute l'Union. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le RGPD a mis 10 ans à sortir, à être façonné en 10 ans. Donc, disons, entre 2008 et 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2018 ? Il y a eu la première commercialisation du iPhone en 2007. Et quand vous voyez ce que c'est aujourd'hui, vous vous dites que le droit, ce qui nous rend très humbles, est un outil parfois archaïque, mais qui doit durer dans le temps. Donc en fait, il vaut mieux des grands principes que le juge façonne plutôt que plein de petites règles très précises qui sont obsolètes assez rapidement. Et on a tendance, malheureusement, à être plutôt dans le deuxième morceau de ce que je viens de décrire parce qu'on a des impératifs d'avoir des élections, de montrer qu'on agit.
Là, dans la roadmap à court ou moyen terme, il y a des gros règlements qui vont bouleverser les e-commerçants dans les 5 prochaines années.
Dans 5 prochaines années, la réponse est évidemment oui. Si la réponse c'est « Arthur, est-ce que tu sais de quoi il s'agit ?» La réponse est évidemment non. En revanche, dans les choses qui arrivent, le règlement Platform to Business, donc le fameux règlement P2B, va rentrer en application en 2020. Donc il faut se mettre en conformité avec celui-ci. En ce moment, il y a une nouvelle commission à la suite des élections européennes qui a été désignée. Et donc ils sont en train de définir ce qui va être l'agenda réglementaire de l'économie numérique. Une des grandes choses qui a été discutée, c'était de réouvrir la fameuse directive sur le commerce électronique pour en fait réadapter les règles à ce que c'est que l'économie numérique aujourd'hui. On comprend assez bien que ce qui était en 2000 n'est pas du tout ce qui est aujourd'hui en 2020. Donc ça, c'est une vraie chose qui peut arriver et ça peut prendre soit la forme d'une nouvelle directive, soit la forme d'un règlement qui préciserait les choses. Et il y a aussi une autre directive très importante, ou un règlement, je ne sais plus, mais ça s'appelle New Deal for Consumers. Et ça, c'est un renforcement encore du droit de la consommation à l'échelle de l'Union. Et il y a plein de choses sur les places de marché, les plateformes.
Et ça, c'est à quelle échéance ? On parle de quoi ? 2-3 ans ou
on parle d'entre maintenant et 5 ans.
Et 5 ans. Et si c'est un règlement, ça pourrait être dans 12 mois, il faut que vous soyez conforme ?
Ouais, ça serait très ambitieux, mais c'est plutôt 5 ans.
Ok, d'accord. Donc, à 5 ans, il y aurait ces gros chantiers et donc des vrais bouleversements. Bon.
C'est des bouleversements, mais c'est aussi...
On attend plus 20 ans, on a plus 5 ans.
C'est des opportunités formidables parce que vous avez, vous, un business aujourd'hui, vous avez des règles et l'objectif... Alors, nous, quand on explique notre métier, les pessimistes ou les critiques vont dire que nous, on est des avocats qui aident des gens dans la zone grise. C'est une manière négative de le voir. La réalité, c'est qu'on aide nos clients à innover dans un flou juridique. Donc, chacun voit ça comme il veut. Mais c'est une manière de façonner des usages, assurer des modèles économiques qui ensuite seront peut-être légalisés. C'est-à-dire que de la même manière que le covoiturage, Blablacar dont tout le monde parle aujourd'hui, ça s'appelait covoiturage.fr. Avant de connaître le succès que ça a eu, personne ne le connaissait. Et il y a eu la première règle sur le covoiturage, 2015. La boîte a été créée en 2007-2008. Donc... avoir un flou ne veut pas forcément dire être soit un brigand, soit de ne pas réussir.
J'avais encore une petite question, Arthur, pour toi. Demain, je vends des chaussettes sur Internet. À partir de quand j'utilise une solution clé en main qui me permet de vendre très facilement ? Les volumes sont bas. À partir de quand je fais appel à une société, à des avocats pour regarder, pour structurer, pour me donner des conseils ? Je suppose que tout au début, ce n'est pas nécessaire. Ou si
tu as les CGV à faire hein, quand même. Tu vas pas aller sur Legal Start ?
Nous, honnêtement, Legal Start, on recommande à beaucoup de clients de le faire. Enfin, je vais donner un point de vue qui est très propre au cabinet. Chez Parallèle, on fait peu de dossiers pour des clients qui mettent le juridique au cœur de leur stratégie. Ce qui veut dire que c'est une préoccupation. En fait, il n'y a pas vraiment d'âge pour être préoccupé par ça. Vous pouvez avoir un business qui, dès le début, a un enjeu réglementaire au cœur de votre modèle. Et en fait, si vous arrivez à craquer ce problème-là, le reste, le marché, tout le commercial va suivre. Et vous ne pouvez pas lancer votre business sans ça. qu'en fait, ça dépend à quel point c'est critique pour lancer. Si c'est très critique, il faut consulter tout de suite parce que sinon, vous allez construire peut-être un géant, mais avec des pieds d'argile, ce qui n'est pas désirable. Si tu fais un business assez classique où il n'y a pas des grosses réglementations, la réalité, c'est si tu n'as pas beaucoup de sous, ben, faut juste faire ça le plus vite possible, trouver des financements et ensuite, quand tu as de l'argent, tu fais des chantiers d'envergure.
Très bien. Bah, je crois que nous touchons à la fin de cette émission. Arthur, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter, te joindre?
Sur notre site internet, parallèle.lo, via notre revue si vous avez trouvé que la lecture était intéressante ou par le blog Droit du Partage. Ou alors en réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Enfin.
On mettra tout ça dans les liens de la description.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment.
Laetitia, un autre épisode qui se déroule sans accro.
On va dire ça comme ça. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafedelecommerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, on le partage, on met 5 étoiles. C'est ce qu'il faut dire, Laetitia,
exactement,
c'est ça?
Exactement, 5 étoiles, et pas moins.
Laetitia, on fait autodétruire ce podcast?
Allez, on l'autodétruit.
Ce podcast s'autodétruira dans 5 secondes. À très vite.
Ciao.